chose. Alléluia. On va poursuivre ce matin parce qu'on avait parlé de 5 géants, puis on n'a vu qu'un. Mais il en reste 4 autres. Et on va les regarder ensemble. Parce qu'il a choisi 5 pierres polies. Une pierre polie a abattu un géant, mais il reste 4 pierres polies. Et il restait 4 géants. Et ces géants ont été abattus. Également, en 2 Samuel 21, c'est le deuxième qu'on va regarder ensemble. Versets 15 à 22. Oh, un chrétien averti? Ça, c'est un homme averti qui en vaut deux. Un chrétien averti. Un chrétien averti. Choisis des pierres polies dans le Torah du Saint-Esprit afin de vaincre l'ennemi. Amen? En 2 Samuel 21, 15 à 22. Amen. Alléluia. Et on va lire ça ensemble. Les Philistins firent encore la guerre à Israël. David descendit avec ses serviteurs et ils combattirent les Philistins. David était fatigué et Jishbi-Benob, l'un des enfants de Rapha, eut la pensée de tuer David avec une lance de poids de 300 sicles d'airain. Oh! Il était ceint d'une épée neuve. Abishai, fils de Tsirusa, vint au secours de David, frappa le Philistin et le tua. Alors les gens de David jurèrent en lui disant, « Tu ne sortiras plus avec nous pour combattre et tu n'éteindras pas la lampe d'Israël. » Alléluia. C'est notre deuxième géant qui fut abattu. Et comme on l'a mentionné, c'est important de pouvoir aller au combat. Oui, la Bible, pas la Bible, mais le thème cette année, la Bible dit aussi, « Sois vainqueur. » Et pour être vainqueur, il faut être en mesure de bien se préparer pour aller au combat. Amen? On sait que David a refusé l'armure de Saül. Hein, ça y allait pas, c'était pas pour lui, c'était pas fait sur mesure pour lui. Parce que ça nous parle aussi de l'armure de la chair. Puis on sait qu'on va pas au combat avec l'armure de la chair. Et il a mis cette armure de côté, il s'est rendu sur le champ de bataille, mais il n'a pas été directement vers Goliath. Il n'a pas été comme ça sur le champ de bataille sans au préalable avoir été cherché dans le torrent 5 pierres polies afin de faire face à l'adversaire et tout ça. Et ça nous parle, enfant de Dieu, que on renonce aux œuvres de la chair et tout ça, on va aller combattre et tout ça, mais on ne peut pas y aller avec insouciance et négligence. Il faut y aller aussi en allant au torrent de Dieu et pouvant prendre les promesses de Dieu qui sont associées. Dieu n'endosse pas la négligence et Dieu veut qu'on soit, on puisse faire le combat, la Bible dit, avec prudence. Et des pierres lisses, c'est des pierres sans défaut, sans imperfection, des pierres qui pouvaient atteindre leur but. Et même si Dieu a permis que la pierre puisse atteindre son but, c'est suite justement au fait que David a pris au préalable, pris le temps de se préparer pour faire face à l'adversaire. Et c'est comme ça que Dieu a pu honorer tout ça et que sa promesse s'est accomplie. Au nom de l'Éternel! C'est au nom de l'Éternel que Dieu t'a battu tout ça. Mais il y avait dans sa gibecière 5 pierres polies. Et on a vu ce géant Goliath hein, qui nous parlait de... Le géant de... Vous vous souvenez? Je sais que vous vous souvenez. Vous n'osez pas le dire. C'est... Le géant de la crainte, la peur, la frayeur. Hein? Vous savez, on peut aller au combat face à l'adversaire et tout ça en disant, « Oh, je suis vainqueur. J'ai les promesses de Dieu. Je suis vainqueur. Oh, j'ai les promesses du Seigneur. J'ai des grandes et des précieuses promesses. Je suis vainqueur. » Ça ne fera pas de toi un vainqueur. Parce que tu tenterais de dire, « J'ai des promesses. Je m'en vais au combat, j'ai les grandes et précieuses promesses. » Oui, mais lesquelles? Lesquelles? Je peux dire j'ai des grandes et précieuses promesses. Mais je ne sais pas, mais je sais que j'en ai. Je sais que dans la parole, il y a toutes sortes de promesses. Tout ça. Ça ne te rend pas vainqueur parce que tu dis que tu as des promesses. Il faut que tu les connaisses. Il faut que tu puisses aller les puiser. Il faut que tu ailles les chercher. Faut pas que tu sois négligent. Faut que tu prennes le temps Parce que cinq pierres polies, cinq géants, il y a des promesses pour chaque géant qu'on peut rencontrer dans nos vies, chaque adversaire, chaque montagne, chaque vallée, chaque difficulté, chaque problème, chaque chose qu'on a à faire face dans ce monde. Il y a des promesses pour chaque. Il faut les connaître, il faut les puiser, il faut aller les chercher, il faut les mettre dans la gibecière de notre cœur afin de faire face à l'adversaire au moment voulu. Lorsqu'on se trouve face à certaines difficultés, on peut aller saisir ses promesses dans le nom du Seigneur. Amen. Et Dieu a sa parole pour chaque chose dans notre vie. Il veut qu'on puisse surmonter ces choses. Chaque jour, il devait sortir puis aller chercher la manne. Il pouvait pas prendre la manne puis dire on la garde pour un an, on le met dans le congélateur. On va garder de la manne pour un an, tout ça. Non, à chaque jour, il devait sortir. Sinon, la manne, ça pourrissait tout ça. Et ça nous parle, enfant de Dieu. On peut pas amasser et dire, bon, on va en avoir pour un an, j'ai plus besoin d'aller dans la parole de Dieu, là, je suis rempli et tout ça. Chaque jour, on a besoin de révélations fraîches. Amen. Dans la parole de Dieu, d'aller puiser. Parce que chaque jour suffit. Chaque jour suffit sa peine. Et on a nos contraintes et tout ça à chaque jour. Et on a besoin justement d'aller puiser. Amen! Oh, cinq pierres polies. Il savait que même avec juste une, il pouvait l'abattre. Mais il en a pris cinq. Vaut mieux en avoir plus que moins. Amen! Plus t'en as, mieux ça ira. Te contente pas d'un ou deux, mais puisses-tu remplir ton cœur de la parole de Dieu. Alléluia. Vous savez, qu'est-ce qui s'oppose à l'esprit dans nos vies? La chair. Les œuvres de la chair. La paresse, l'insouciance, la négligence font partie de la chair. On se lève le matin, puis on se dit, oh, ça me tente pas de prier, de lire. Je vais prier puis lire ce soir. Et là, on arrive le soir, qu'est-ce qui arrive? On est fatigué. Ah, ben je vais lire après avoir soupé, après avoir pris mon bain, après avoir peut-être vu les enfants, tout ça. Ah, après avoir regardé mon émission favorite, ou la soirée du hockey, je sais pas. Après, je vais prier. Puis là, on est là, puis, ah, oh, je suis trop fatigué. Et je m'endors tout ça. Sois vainqueur. Hein? La chair des désirs contraires. L'Esprit nous dit, justement, d'aller puiser tout ça et de pas remettre à plus tard ou tout simplement de dire, c'est inutile, je connais tout ça, j'ai pas besoin de lire et tout ça. Fait 30 ans, je suis dans le Seigneur. Fait, je peux bien laisser la parole de Dieu de côté pour quelques jours et tout ça. Non, que ce soit 30 ans, 40 ans, 60 ans, peu importe, 100 ans, si tu veux. Tu as toujours besoin de la parole de Dieu, de prendre le temps de t'approcher de Dieu et d'aller chercher dans le Seigneur. Ou tout simplement, on se dit parfois, on est sous la grâce, on est sous la grâce. Je ne m'imposerai rien. Ah, de toute façon, je suis vainqueur. Il n'y a aucun problème avec ça. J'ai pas besoin de faire quoi que ce soit. Et si je fais quelque chose, je vais le faire seulement si ça me tente. Ça, c'est de l'insouciance, c'est de la négligence. Tous ceux qui combattent s'imposent toutes sortes d'abstinences. Ils le font pour obtenir une couronne corruptible. Mais nous, faisons-le pas, car nous sommes sous la grâce. C'est pas ça que vous avez? Ah, regardons ça. Moi, j'avais ça ici, là. Mais nous, faisons-le pas, car nous sommes sous la grâce. Ah, c'est entre parenthèses. Après, c'est marqué, faisons-le pour une couronne incorruptible. Hein, des fois, on veut pas s'imposer quoi que ce soit, parce qu'on se dit, oh, on est sous la grâce, mais il dit, les gens dans le monde le font pour une couronne corruptible, pour des choses passagères, des choses qui ne demeureront pas. Ils vont s'abstenir de certaines nourritures, ils vont s'abstenir des parties, ils vont s'abstenir de se coucher trop tard, ils vont prendre le temps, ils vont se discipliner, tout ça, pour quelque chose qui va être temporaire et passager qu'on se souviendra même plus dans quelques années et tout ça. Mais ils le font. Et lui, il dit, faisons-le. Abstenons-nous. Ayons de la tempérance, c'est ce que ça veut dire. Se contenir, démontrer de la maîtrise de soi, avoir une certaine discipline dans nos vies pour une couronne incorruptible. Alléluia, pour quelque chose d'éternel, pour quelque chose qui va nous procurer, oh, pour notre âme. S'ils le font, eux, faisons-le, nous. Et non, ne le faisons pas, se mettant sous le fait de la grâce. La grâce t'enseigne quoi? À renoncer. Ne recevez pas la grâce de Dieu en vain, ne vous privez pas de la grâce, mais la grâce t'enseigne à renoncer à toute impiété et à toute chose. C'est des fondements de la vie chrétienne. Sans poser de nouveau le fondement du renoncement aux œuvres mortes, il y a de notre part le désir, dans notre cœur, justement, de renoncer à ces choses. Il dit, tu feras la guerre avec prudence. C'est pourquoi quiconque entend ces paroles que je dis, les met en pratique, sera semblable à un homme prudent qui a bâti sa maison sur le roc. Un homme prudent. Quand la prudence fait défaut, le peuple tombe. Un homme sage et plein de force, et celui qui a de la science affermit sa vigueur, car tu feras la guerre avec prudence. Donc Dieu nous appelle à être prudents. Oui, tu es vainqueur et tout ça, mais oui, tu renonces à l'armure de Saül. Mais avant d'aller face à Goliath, assure-toi. Assure-toi de prendre dans le terrain de Dieu les pierres polies de Dieu. Et de l'avoir dans ton cœur. Parce que l'ennemi est subtil. L'ennemi est rusé. Et si tu n'as pas ça dans ton cœur, tu vas tomber. Tu t'en vas, tu dis, ah, j'ai des grandes et précieuses. Et l'ennemi dit, Dieu a-t-il réellement dit? Ah, je ne sais pas. C'est-tu dans la Bible ou c'est pas dans la Bible? Le pasteur nous a dit quelque chose en avant, je ne suis pas sûr. C'est-tu dans la Bible? Et là, tu tombes parce que tu n'es pas sûr. Tu ne sais pas vraiment si cette promesse est vraiment réelle et tout ça. Et tu as besoin de faire la guerre avec prudence. Amen. Et on a dit ce géant de la crainte et de la frayeur et tout ça, c'est Goliath qui se lève. Goliath qui veut dire exilé. Oh, il a été exilé, chassé, il était du royaume de Dieu. Et il est exilé dans ce monde. Il a été jeté en dehors du royaume. Et maintenant, il est comme errant dans ce monde, puis il essaie de nous faire croire que ce monde lui appartient. C'est un exilé. C'est un exilé. Et il vient, et la Bible dit, il a dit à Josué, « Tout lieu que foulera la plante de ton pied, je te le donne. » L'ennemi va essayer de garder un certain territoire ou faire semblant que, oh, il possède toute chose. Mais il dit, je vous ai donné le pouvoir sur les serpents et les scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi. Élargis tes cordages et tes cordages et tout ça. Prends le territoire pour Christ. Le territoire appartient au Seigneur. Amen. Quand ils sont rentrés dans Canaan, l'adversaire était là, mais il dit, je vous le donne. C'est à vous. Goliath est un exilé. Et ce qu'il veut, c'est justement nous empêcher de saisir. Alléluia. Oh! Gloire à Dieu. Nous empêcher de saisir le territoire. Et c'est à nous de prendre autorité dans le nom du Seigneur. C'est quoi la pierre polie qu'on a vue face au géant Goliath? C'est l'autorité que nous avons dans le nom du Seigneur. Vous êtes un enfant de Dieu. Êtes-vous enfant de Dieu?
Oui.
Vous êtes né de nouveau.
Oui.
Vous portez quoi en vous? Le nom de Jésus. Et au nom de Jésus, tout genou. Amen. Alléluia. Ne vous éloignez jamais, jamais de la simplicité de Christ. Il n'y a rien de plus simple que la vie chrétienne. Il n'y a rien de compliqué. Jésus est mort pour nos péchés. Nous sommes sauvés. Il est ressuscité, la vie de Christ est en nous, et maintenant son nom est en nous, nous portons le nom du Seigneur en nous. Il n'y a rien de compliqué dans ça. Au nom de Jésus, je voyais Satan tomber comme un éclair. Alléluia! Pourquoi? Parce que les disciples ont été dans le nom du Seigneur, et l'ennemi ne pouvait pas résister, parce qu'ils avaient reçu l'autorité dans le nom du Seigneur. On ne doit pas laisser la crainte de la maladie, la crainte de l'avenir, la crainte des hommes, la crainte de manquer quoi que ce soit, la crainte de la solitude, t'empêcher de faire l'œuvre de Dieu et d'avancer. La crainte du changement, la crainte du bouleversement de tes habitudes t'empêcher de mettre à l'œuvre pour Christ. Vous savez, les superstitieux, des fois, ils ne veulent pas passer en dessous d'une échelle. Hein? Ils disent qu'il y a un danger là. Ou ils voient un chat noir, ou le chiffre 13, ou ils renversent du sel, ou du poivre, ou faut que tu jettes du sel par-dessus ton épaule, je ne sais pas. Ouvrir un parapluie dans une place, c'est de la superstition. C'est de la superstition, hein? Mais on peut être superstitieux pour d'autres choses. On est peut-être chrétien, tout ça, de moi, ces superstitions-là, non. Mais tu peux être superstitieux pour d'autres choses. Il ne faut pas que tu changes tes habitudes de vie parce qu'il risque de t'arriver un malheur. C'est de la superstition. Hein? Des fois, on a la crainte que des choses changent, les habitudes changent dans nos vies et ça nous empêche de faire l'œuvre de Dieu parce que, oh non, je ne peux pas changer ça. Je suis. C'est comme ça, ça se passe. Le lundi, à telle heure, je fais telle chose, je me lève, je fais telle chose, j'ai telle émission ou telle activité. Le mardi, c'est telle chose. Et là, il arrive une réunion de prière. Je peux pas y aller. Je veux pas briser mon habitude de vie. J'ai la crainte. Tout d'un coup, il va m'arriver quelque chose. Si je brise, il y a une activité spéciale. Faut que je fasse attention. Faut pas que je déroge. Hein, mon frère, selon le chair, c'est un homme assez spécial, je ne sais pas, mais il était spécial. Il avait sa place pour s'asseoir dans le salon. Fait qu'il prenait sa chaise, il la mettait dans le salon, puis il y avait comme des choses à terre pour pas que ça déroge de là. Là, il s'assoyait sur la chaise et personne ne veut toucher à ça. Et quand il mangeait, il avait ses propres ustensiles. Tout était ébouillanté, tout était fait selon un rythme et tout ça, obsessif même, et ça devenait comme de la superstition. Si ça n'est pas comme ça, il n'était pas heureux. Oui, il y avait pas de microbes sur ses ustensiles. Oui, il avait toujours sa place, mais il était malheureux. Parce que c'est devenu comme un lien, c'est devenu comme obsessif, et ça t'empêche justement de faire ce que Dieu, dans le Seigneur, ça peut arriver, c'est des choses comme ça. Des choses que toi, dans ta vie, que tu déroges pas, même si tu sais que telle chose, Dieu t'appelle à telle chose, tu veux pas changer ça, parce que c'est des habitudes qui sont devenues parfois de la superstition. Et c'est peut-être pas un choix noir, mais c'est autre chose. Que ça ne t'empêche pas de faire l'œuvre de Dieu. Le géant de la crainte. Oh, si tu déroges de ça, tu vas t'arriver de quoi? Tu as l'autorité de Christ. De prendre autorité dans le nom du Seigneur. Alléluia. Afin de faire l'œuvre de Dieu. Afin de vivre l'action du Saint-Esprit. Moi, je mange à midi. Je ne déroge pas de ça. Réunion finie ou pas, je pars. Mon estomac souffre. Je vais devenir malade. Je vais avoir des crampes. On va me ramasser cette petite cuillère. Pasteur, faut que ça finisse à 11h30. Parce que j'ai faim. Mon estomac. Je vous le dis. Si vous retardez d'une heure pour dîner, vous ne mourrez pas. Vous ne mourrez pas. Vous risquez même d'être béni. Vous risquez d'obtenir une certaine bénédiction supplémentaire de la part du Seigneur. Parce qu'il voit. Qu'est-ce qui est plus important? C'est l'action du Saint-Esprit. C'est ton âme plus que ton estomac. Que tu accords plus les choses de Dieu. Alléluia! Même si ça durait 3 heures, la réunion. Oh! Combien de temps passes-tu sur Facebook? Ou devant la télévision? Même si tu donnerais 3 heures au Seigneur. Regarde, ça ne sera pas une punition. Et c'est ton estomac ou ton âme. Et c'est là la différence entre Ésaü et Jacob. Oh, il avait faim! Il avait faim! Puis il avait un plat de lentilles. Puis il avait faim. Puis il a changé son plat de lentilles. La bénédiction pour un plat de lentilles parce que son estomac était plus important que son âme.
Et le Seigneur va agir. Amen. Alléluia. Il ne te demande pas nécessairement de jeûner ce matin, de retarder d'une heure. Et ça fait partie de la vie chrétienne, le jeûne aussi. Vous saviez ça? Avez-vous peur qu'il vous demande de jeûner? Oh, moi, c'est mes 3 repas par jour. Ça me prend mes 3 repas par jour. Matin, midi, soir. Je ne déroge pas de ça. Il n'est pas question de jeûner. Pourquoi? Dieu, des fois, peut nous demander de jeûner. Il a même dit qu'il y a une sorte de démon qui ne sort que par la prière et le jeûne.
Ah, ben moi, je ne veux pas m'attaquer à ce genre de démon. Celui-là, je le laisse aller. Mais il y a une sorte de démon qui sort que par la prière et le jeûne. Donc, c'est possible que Dieu vous demande ça. Ouh! S'il demande ça, ça va briser toutes mes habitudes. Et géant, Goliath se lève et veut nous garder dans la crainte et la peur. Et vous savez, quand Dieu ordonne, il donne. Et lorsqu'il te demande de jeûner, c'est pas quelque chose de pénible. Alléluia, il donne la force aussi à travers ça. Parce que le manger, le boire et les soucis de la vie appesantissent nos cœurs. Il nous empêche de discerner vraiment ce qui est devant nous. Et c'est pour ça qu'on a besoin parfois de jeûner, de mettre des choses de côté, parce qu'on peut avoir un plus grand discernement des choses de Dieu, de ce que l'ennemi est en train de faire. Et c'est pas par mérite qu'on fait le jeûne. On fait pas ça pour mériter quelque chose. On fait quelque chose pour justement être plus à discerner ce qui est face à nous et à prendre autorité dans le nom du Seigneur et avoir une pleine assurance de prendre cette autorité dans le nom du Seigneur. C'est ce que permet le jeûne. Donc, ne vous fermez pas à ça, parce que c'est des choses que Dieu peut vous demander. Oh, Paul s'en allait au lieu de prière et marchait, puis il y avait une femme qui faisait de la publicité en arrière. Oh, il vous annonce, ces hommes vous annoncent la voie du salut. Ces hommes vous annoncent la voie du salut. Et Paul continue d'aller au lieu de prière le lendemain. Il continue. Cette femme suivit. Et leur fait encore de la publicité. Hein? Il n'y avait pas Internet dans ce temps-là. Fait que cette femme suivait. Elle disait, oh, ces hommes vous annoncent la voie du salut. Nous, aujourd'hui, on aurait dit, quelle bonne publicité. Mais Paul, lui, a dit, oh, tanné, irrité, discerner que c'est un esprit de python, c'est un esprit de divination. Et il a pris autorité dans le nom du Seigneur. Alléluia. Et il a chassé cet esprit dans le nom du Seigneur. Il ne s'est pas laissé berner parce qu'il disait, il vous annonce la voie du salut. Il a vu tout ce qui se cachait derrière de ça. Le profit qu'elle a tiré de ses maîtres. Comment les gens allaient regarder vers elle. Comment les gens allaient se tourner vers elle. Comment les gens vont dire, « Oh, dis-nous l'avenir. T'es bonne, toi. T'es bonne pour annoncer des choses. T'as su qu'est-ce que ces hommes faisaient? » Donc, c'était pour attirer le regard sur elle et sur ses maîtres et tirer un profit. Donc, ça venait de l'ennemi. À ce moment-là, Paul a discerné ces choses. Il dit fréquemment dans les jeûnes et la prière, fréquemment s'approcher de Dieu, d'aller dans le lieu et s'approcher du Seigneur. Il a pu discerner que c'était pas de la bonne publicité. Que c'était quelque chose qui allait agir pour, en faveur de l'ennemi. Parce que les gens allaient se tourner vers cette femme et ses maîtres. Et parfois, nous chrétiens, on est parfois à se laisser attirer comme ça. Par les choses de l'avenir. Hein, les choses, on regarde. Et on veut se trouver des prophètes qui vont nous dire que nous réserve l'avenir. Est-ce que je vais me marier? Est-ce que je vais avoir des enfants? Est-ce que je vais avoir beaucoup d'argent? Est-ce que je vais réussir? Je vais aller vers un prophète de Dieu, puis il va m'annoncer mon avenir. Vous n'avez pas besoin d'aller vers un prophète de Dieu pour vous annoncer l'avenir, je vais vous le dire, moi. La parole de Dieu te le dit, ton avenir. Crains l'Éternel! Fais de lui tes délices. Cherche premièrement le royaume et la justice de Dieu. Et tu vas être pourvu, tu vas réussir. Alléluia! Lève-là ton avenir. T'as pas besoin d'un prophète, un supposé prophète, qui va te dire des choses. Des fois, on va vers ces hommes, ces personnes. Pourquoi? Parce qu'on veut pas chercher la face de Dieu. On veut pas prendre la peine de s'arrêter, de se mettre à genoux, puis de venir dans la présence de Dieu. Puis on cherche un homme de Dieu qui va nous dire notre avenir. L'avenir, on l'a dans la parole de Dieu. C'est tout est écrit, là. J'ai connu un jour une sœur qui était frustrée contre moi. Ça peut arriver. Je sais pas pourquoi, mais ça peut arriver. Parce qu'elle est venue me voir parce qu'elle voulait une parole de Dieu. Hein? Pas de problème, je suis allé prier. Et je lui ai emmené cette parole de Dieu. Là, elle était frustrée. Parce que c'est pas ça qu'elle voulait. Ce qu'elle voulait, c'est que je lui dise ça allait réussir. C'est quelle décision prendre pour qu'elle travaille. Quoi faire pour telle chose. Elle voulait que je lui donne des choses comme ça. C'est pas ce que Dieu m'a donné. Ça, c'est ta responsabilité de chercher la face de Dieu sur la situation. Je suis pas quelqu'un qui annonce la bonne aventure, qui dit ton avenir. C'est pas le mandat que Dieu nous donne. La prophétie est là pourquoi? Pour confirmer la parole écrite, pour qu'elle soit en vie en toi, pour la rendre à propos, dite à propos. C'est ça la prophétie. Elle sert pour l'édification du corps de Christ, pas pour te dire quel job prendre. Quel investissement faire dans ta vie? Quel homme, quelle femme rencontrer? C'est pas ça la base de la prophétie. C'est l'édification du corps de Christ. Amen. Alléluia. Et ça arrive que Dieu donne des prophéties directionnelles, si on veut. Certains, il y a un appel sur la vie de quelqu'un. Dieu t'appelle, peut-être pastorat, évangéliste, quelque chose. Ça arrive que Dieu révèle ces choses. Mais pourquoi qu'il les révèle? Il les révèle pour que ça te motive à te consacrer davantage, pour accomplir cette œuvre excellente, pas pour faire l'inverse. Moi, le Seigneur m'a appelé de pasteur, évangéliste, missionnaire. Donc, j'ai plus besoin de personne. Je deviens ma propre autorité parce que Dieu m'a appelé tout ça. Et c'est pas que ce que Dieu dit quand il donne des paroles comme ça. C'est pour t'encourager, te stimuler justement à marcher dans les voies du Seigneur. Quand Dieu me dit, m'a appelé de pasteur, une des premières choses que j'ai fait, c'est d'aller voir les pasteurs. Et dire, regarde, je ressens la part du Seigneur. Et d'attendre de leur part la confirmation. J'ai moins d'amen. Ça revient. On va aller jusqu'à 1h30 si vous faites ça. Combien de fois j'ai vu des chrétiens venir me trouver dans le bureau? Dieu m'a dit, Dieu m'a appelé, je m'en vais, je fais telle chose, Dieu m'a appelé telle chose. Ils viennent pas chercher une confirmation. Ils viennent pas me demander comment que je me sens face à ça, comment le Seigneur, s'il y a des choses qu'il a besoin d'apprendre et des choses. Ils viennent m'annoncer qu'ils sont appelés à faire telle chose. Donc, je ne leur réponds rien. Ils me demandent rien. Fait que s'ils sont appelés à s'en aller, s'ils sont appelés à faire d'autres choses, ben c'est correct qu'ils fassent d'autres choses. Mais bien souvent, ils vont se péter le nez. Parce que c'est pas comme ça que Dieu veut que ça marche. Dieu a établi dans son Église des dons à l'Église. Et ça contribue justement à l'édification. Et parce que tu as un appel dans ton cœur, ça veut pas dire que c'est maintenant qu'il faut que ça se fasse. Il y a le timing de Dieu aussi. Et la soumission les uns et les autres dans la crainte du Seigneur. Parce que tout se fait à travers le corps de Christ, vous savez. Quand Paul et Barnabas, l'Esprit dit, mettez-moi à part Paul et Barnabas. Paul et Barnabas n'ont pas commencé à se péter bretelles puis dire, regarde, nous autres, on est des missionnaires. Puis écoute, les anciens, tout ça, on s'en fiche pas mal. On s'en va. On quitte. La Bible dit qu'après que le Saint-Esprit révélait ça, les anciens, les chefs, ceux qui étaient là dans l'Église, ont pris le temps de prier et jeûner. Ils ont été dans la présence du Seigneur et tout ça, savoir le temps et tout ça. Puis ensuite, ils prirent Paul et Barnabas, leur imposèrent les mains. Imposition des mains pour l'approbation du ministère. Comme la Bible dit en Timothée, pas juste pour la guérison. L'imposition des mains pour l'approbation dans le ministère. Et ils ont pris le temps d'imposer les mains et ils les laissèrent partir.
Et voyez-vous pourquoi Paul et Barnabas ont eu tout ce ministère et toute cette onction? C'est qu'ils n'ont pas fait leur propre autorité. Ils sont soumis à travers l'autorité que Dieu établit dans son Église. Et tu peux avoir des révélations de Dieu sur un appel ou quelque chose dans ta vie. Mais si tu marches selon ce que l'Esprit de Dieu veut, tu vas prendre le temps d'accepter et de réaliser que Dieu a donné à son Église ce qu'il faut pour le bon timing et le bon temps dans le Seigneur. Amen? Et ça ne sera jamais retardé. Au contraire, Dieu va agir parce que Dieu est un Dieu de miséricorde, un Dieu qui donne, un Dieu qui agit, un Dieu qui se révèle. Amen? Oh, hey, on est encore au premier géant. Le deuxième, la semaine prochaine. Gloire à Dieu. Ça, c'est la déformation hein, des pasteurs. Le deuxième géant, c'est Jisbi Benob. C'est le géant de la confusion. C'est le géant de la distraction, de la diversion. Vous savez, ça veut dire son nom, celui qui demeure sur la montagne, dans les hauteurs. Puis la Bible dit qu'il avait une nouvelle épée, et d'autres versions disent « armé d'une nouvelle manière ». Il était armé d'une nouvelle manière. Ce géant était armé d'une nouvelle manière. Il ne faisait pas les choses comme les autres. Et il est arrivé face, puis il a dit « Je vais tuer David. Si on tue David, on va avoir du succès et tout ça. » Et Abishai, t'as-tu vu ça? Mais David était fatigué. David était fatigué. Puis il a failli mourir. Même s'il a tué Goliath avec une pierre polie. Là, il a failli mourir. Si ça n'eût été d'Abishai, quelqu'un qui était à côté de lui, fidèle, pour prendre et venir et défendre et agir et combattre, et il a eu le dessus sur ce géant. Puis après, ils ont dit, écoute, David, là, c'est assez. Tu n'es pas tout seul à combattre ici. Là. Si tu fais ça, là, tu vas mourir sur le champ de bataille. David, il est le roi. David doit s'occuper de la nation. David doit s'occuper de l'administration, des choses. Et en plus, il va sur le champ de bataille. Puis ensuite, il prend le devant face aux Philistins. Tout ça, ils ont dit non. Écoute, tu vas rester en arrière et tout ça. Et on comprend que tu as à cœur d'aller battre et tout ça. Mais voyez-vous, David ne pouvait pas tout faire tout seul. Il y avait des personnes autour de lui, des personnes fidèles. Il y avait des Abishai, des personnes qui étaient prêtes à aller puis dire, gars, écoute, nous autres aussi, on est là. Nous autres aussi, on va combattre parce que on a une belle image ici. La vie chrétienne ne vit pas seule. On a besoin les uns des autres lorsqu'on est fatigué là. Dans la vie chrétienne, parce que ça va arriver qu'on est fatigué là, de répéter les mêmes choses, de faire les mêmes choses, d'accomplir le même ministère et de répéter des choses. Puis alors, on devient fatigué, on devient là. Et l'ennemi vient à ce moment-là. Il vient comment? Il vient avec une nouvelle façon de faire les choses. Une nouvelle façon de s'armer. Changer certaines choses. Et c'est à ce moment-là qu'on tombe de ce que Dieu nous appelle. Et qu'on risque d'être vaincu, tandis qu'il y avait des hommes autour de David qui étaient là pour secourir et tout ça. Nouvelle façon de faire les choses. Ce géant avait une nouvelle façon de faire les choses. Une nouvelle arme, armée d'une nouvelle manière. Avez-vous remarqué que ça arrive, ça, des fois, qu'on est là, il est fatigué et tout ça, que certaines personnes nous apportent une nouvelle façon de faire les choses. Des personnes qui sont dans les hauteurs et qui observent et qui disent, bon, voilà, il y a une nouvelle façon de faire les choses. Tu n'as plus besoin du corps de Christ. Tu n'as plus besoin de te réunir. Regarde, allège ton fardeau. Ah, t'es fatigué là. Fais d'autres choses. Tu peux aller vers les gens dans ce monde. T'es pas obligé de te joindre à l'église. T'es pas obligé d'aller puis de louer et tout ça. Tu peux rester chez toi puis louer le Seigneur. Dieu t'aime pareil. Ah, je vais être chez nous, je vais louer le Seigneur, Dieu m'aime pareil. Mais Dieu a donné le corps de Christ de se réunir ensemble en son nom. Et même si on voudrait changer les choses, c'est comme ça il y a 2000 ans, c'est comme ça aujourd'hui, ça va être comme ça jusqu'au retour du Seigneur. Discerner le corps de Christ. C'est pour ça qu'on a la Sainte Cène, c'est pour apprendre à discerner le corps de Christ aussi. L'œuvre d'édification du corps de Christ, les ministères dans l'Église, les frères et les sœurs ensemble.
Alléluia. Oui, il y a les nations. Oui, il y a les Philistins. Oui, il y a le monde extérieur. Mais avant ça, David, c'est un homme attaché à la maison de l'Éternel. Un homme que son zèle était pour la maison de l'Éternel. Avant de penser à les combattre, avant de penser d'aller évangéliser tout le monde, d'aider tous les démunis de cette terre. Prends le temps de t'édifier. Prends le temps de te fortifier dans le Seigneur. Apprenez à discerner le corps de Christ. Ce repas devait être pris régulièrement. Comment tu peux obéir au Seigneur si tu n'es pas prêt à faire ce que Dieu t'ordonne? C'est quoi le but de l'Église et l'édification? C'est simple, la vie chrétienne. Pourquoi compliquer les choses? Je bâtirai mon Église. C'est ça le but. L'édification. Et la façon, c'est en faisant des disciples. Bon, c'est pas plus compliqué que ça. Et faire un disciple, c'est quoi? Enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. Alléluia. C'est ça, faire un disciple. Pas faire juste des hommes, des personnes qui font une prière de repentance. Faire un disciple pour l'édification du corps de Christ. Parce que nous sommes des pierres vivantes, des pierres lisses, des pierres éprouvées, des pierres précieuses dans la maison de Dieu. Il dit, édifiez-vous. Alléluia. Parce que nous sommes ces pierres dans le Seigneur. Alléluia. Et c'est dans l'intérieur du corps de Christ qu'on vit une certaine protection dans le Seigneur. Et lorsque tu t'enlèves de ça, tu t'enlèves d'une protection. Et je vous le dis sérieusement ce matin, c'est vrai. C'est vrai ce que je vous dis là. Il y a une protection dans le corps de Christ. Et t'as beau dire c'est des hommes, c'est des femmes, c'est des hommes et des femmes remplis du Saint-Esprit, c'est des hommes et des femmes nés de nouveau. Nous sommes des pierres vivantes. Et Dieu dit, ma bénédiction est au milieu de l'Église. Donc, on se réunit à son nom et qu'on est ensemble. Oh, il a donné les dons à l'Église pour le perfectionnement des saints en vue de l'œuvre du ministère et de l'édification du corps de Christ. Oh, c'est fatigant parfois. Se lever, puis venir, puis faire du ministère, puis on devient épuisé. Et là, l'ennemi vient et dit, j'ai une nouvelle manière pour toi. Une nouvelle façon de faire les choses. Tu n'es plus obligé de te réunir. Tu n'es plus obligé de te joindre à une assemblée. Tu n'es plus obligé de commencer à servir. Tu n'es plus obligé de faire ces choses. Et l'ennemi, parfois, se sert de choses qui sont bonnes pour annuler d'autres choses qui sont bonnes. L'important, c'est d'évangéliser. Oh, êtes-vous d'accord avec ça? L'important, c'est d'évangéliser. Allez, puis évangéliser. Je m'en vais évangéliser. Je fais l'œuvre de Dieu, j'évangélise. C'est vrai que ça fait important l'évangélisation, mais pas au détriment des autres choses. Pas au détriment des autres choses que Dieu a données. On fait quoi avec veiller les uns sur les autres? On fait quoi avec supportez-vous les uns les autres? On fait quoi avec le fait de mettre au service des autres le don qu'on a reçu? Parce que c'est beau prendre cet aspect-là, mais c'est pas juste cet aspect-là dans la vie chrétienne. L'évangélisation fait partie. Mais avant d'aller évangéliser, équipe-toi. Et dès l'équipement des saints en vue de l'œuvre du ministère, tu dois accepter, persévérer dans l'enseignement, et persévérer dans la communion fraternelle, et persévérer dans la Sainte-Cène, et persévérer dans les prières, et persévérer dans la louange, et persévérer pas juste à témoigner. Puis aller à l'extérieur et tout ça, c'est une partie de la vie chrétienne. Et Dieu veut nous équiper ensemble pour faire cette œuvre à l'extérieur. Ah, moi j'ai un ministère de délivrance. Dieu m'appelle un ministère de délivrance. Je délivre tout le monde. Je chasse les démons dans le nom du Seigneur. J'ai un appel à chasser les démons. Avez-vous un appel à chasser les démons? Faites attention à ce que vous répondez, hein? C'est pas ce que je veux dire. On a tous un appel à chasser les démons. Ce n'est pas un appel nécessairement spécifique de chasser les démons. On est tous appelés à amener la délivrance du Seigneur. Amen. Donc, si l'ennemi ne peut pas nous empêcher de croire que nous sommes appelés à chasser les démons, il va s'en servir pour annuler d'autres choses dans notre vie. Il va faire en sorte qu'on voit des démons partout. Il y a des démons partout. Moi, tout le monde est lié partout. Ça prend de la délivrance. Fait que s'il ne peut pas t'empêcher de croire à ça, il va t'amener dans l'autre extrême.
et faire en sorte que tu vas négliger toutes les autres choses parce que tu vois des démons partout. Allô? Il n'y a pas juste l'idée de chasser des démons dans la vie chrétienne. Il y a aussi le fait de s'exhorter, s'encourager les uns les autres, se consoler, s'accueillir les uns les autres. Moi, quand quelqu'un rentre dans l'assemblée, je ne vois pas un démon chassé. Je vois une personne à aimer. Amen. C'est une personne à aimer. Alléluia. À entourer, à accueillir. À vouloir que cette personne puisse quitter ce lieu en sautant de joie dans le Saint-Esprit. Là, je suis béni, c'est ma récompense. Si les gens s'en vont remplis du Saint-Esprit, je n'ai pas besoin d'autre chose. C'est ce que Dieu nous appelle. Et s'il arrive certaines situations que des démons, qu'on doit prendre autorité, on va le faire. Mais Dieu va nous donner un certain discernement. Mais Dieu, l'ennemi est subtil. Il va te donner une nouvelle façon de faire les choses. Et Dieu a établi des choses et qui ne peuvent pas changer. Qui vont être là au début, puis qui vont être là jusqu'à la fin. Mais parce que tu es là et que tu es fatigué, parfois, tu es ouvert à ces choses. Et vous savez qu'est-ce qui combat le géant de la confusion? C'est la pierre polie de la fidélité. La fidélité. Demeurer fidèle à ce que Dieu a établi, à ce que Dieu a fait. Moïse qui est fidèle dans toute ma maison. Il n'en est pas comme mon serviteur Moïse. J'agis pas avec Moïse comme j'agis avec les autres. Pourquoi? Il dit parce que lui, il est fidèle. Lui, il est fidèle. Et ce que je veux, c'est des personnes fidèles. Parce que c'est leur nom. Les élus, les rachetés, les fidèles. Je veux des personnes fidèles. Il dit, quand je lui ai montré le tabernacle, je lui ai bien dit, Moïse, tu vas faire exactement comme je t'ai montré. Et Moïse a fait exactement comme il a été montré. Amen. Alléluia. Parce qu'il est fidèle. Et toujours, Dieu a préparé une place pour le rencontrer ensemble. Dans l'Ancien Testament, dans le désert, c'était la tente d'assignation. Dans Jérusalem, c'était le temple de Salomon. Et maintenant, c'est l'Église. Le temps qu'on peut rencontrer Dieu ensemble et se réunir et être fortifié. C'est un fondement, c'est quelque chose, la pierre angulaire. On peut pas rejeter la pierre. Hein? Tu es pierre et sur cette pierre. Et il venait de confesser Christ. Il dit, tu es heureux, Pierre. Tu es pierre et sur cette pierre, je bâtirai mon église. Et c'est Pierre qui a commencé le premier, qui a prêché, et que les âmes sont venues au Seigneur, et que les choses ont commencé à s'établir dans l'église. Et qu'à un moment donné, ce fut les diacres. Et à un moment donné, il y a eu d'autres choses. Puis on a commencé à mettre les choses en place. La fondation établie par le Seigneur à travers ses apôtres et ses anciens et tout ça. Et c'est toujours la même chose aujourd'hui. Et ça ne change pas. Même si l'ennemi vient subtilement, vous dire, gars, t'es fatigué puis t'es là. Gars, je vais te proposer quelque chose de nouveau. T'es plus obligé. T'es plus tenu de faire ces choses. Ce qui va l'abattre, ce démon de confusion, ce géant de confusion, c'est la fidélité. Dans ce qu'on a reconnu vrai et certain. Ce qu'on sait vient justement du Seigneur. Zorobabel, Cyrus, Dieu réveille son esprit. Tu vas faire en sorte que le peuple d'Israël va retourner à Jérusalem construire le temple. Fait qu'il réveille son esprit, il fait un édit, à retourner, tout ça, il va retourner à Jérusalem construire le temple. Et ils vont. Mais à un moment donné, l'ennemi vient, puis il dit, oh, ça marche pas, vous construirez pas et tout ça. Donc, ils ont été, après, il y a eu un autre roi, ils ont été voir l'autre roi, Artaxerxès, j'essaie de le dire comme du monde. Puis cet autre roi a écrit une autre lettre, puis a envoyé au peuple. Il a dit, cessez les travaux. Oh, les travaux, cessez durant des années. Puis à un moment donné, Darius, un autre roi qui est venu, les travaux ont recommencé, puis on dit, il a commencé à faire des recherches, puis il a recherché, puis il a trouvé que Cyrus avait fait un édit qui disait de reconstruire le temple. Fait qu'il est revenu à ça, puis il a dit, reconstruisez le temple! C'est correct! Mais voyez-vous le jeu de l'ennemi? Il y a un édit qui était fait de la part de l'Esprit de Dieu, de reconstruire le temple. L'ennemi vient, puis il écrit d'autres choses. T'es pas obligé de construire. Je veux plus que tu construises le temple. Je veux que tu restes chez vous.
Que tu fasses les choses à ta manière. Que tu agisses à ta façon. Ça, c'est un autre édit.
Mais si tu fais des recherches sur ce qui vient de l'Esprit de Dieu, tu vas voir que ce que tu dis ne vient pas de l'Esprit de Dieu. Parce que l'Esprit de Dieu ne te poussera jamais à rester chez vous tout seul. Il ne poussera jamais à faire quelque chose d'autre que lui-même a établi. Et même si tu dis, moi je témoigne le nom du Seigneur Jésus, je suis correct. Tu peux bien témoigner le nom du Seigneur Jésus si tu veux, puis pas être correct.
Pierre, tu es heureux, parce que tu as dit, tu es le Christ, le Fils de Dieu, mon Père t'a révélé ces choses. Ah, je suis content. À Dieu ne plaise, Seigneur, ce que tu as dit n'arrivera pas. Oh, 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 il vient de dire à Pierre, mon Père t'a révélé ça, tu es heureux. Là, il dit, regarde-moi, Satan. T'as beau avoir nommé le nom du Seigneur Jésus. Ça ne donne pas l'autorité d'aller contre ce que Dieu a établi. À Dieu ne plaise. Même si ça ne plaît pas à Dieu, ça t'arrivera pas. T'as pas d'autorité d'aller contre ce que Dieu a établi. Même si tu prononces le nom du Seigneur Jésus, tu n'auras pas dire, « Ah, je témoigne Jésus. Je m'identifie à Jésus. »
Mais si tu vas contre ce que Dieu a établi, qu'est-ce que le Seigneur a dit à Pierre? Il dit, il y a un fondement qui ne sera jamais ébranlé, tout ça, que tous ceux qui prononcent le nom du Seigneur Jésus s'éloignent de l'iniquité. Que celui qui prononce le nom du Seigneur agisse fidèlement. Que celui qui prononce le nom du Seigneur marche selon les principes que Dieu a établis, que ça fasse notre affaire ou pas. Tu auras beau avoir la nouvelle révélation que tu veux, tu auras beau avoir entendu à telle ou telle place qu'il y a une autre façon de faire les choses, le Seigneur dit, c'est ma façon. C'est ma façon. Paul a dit, oh, si quelqu'un vient vous annoncer un autre évangile, un autre Jésus, un autre esprit, vous le recevez? Il dit, c'est pas parce qu'il y a un autre évangile, un autre Jésus, mais il dit, vous le recevez. Il dit que celui qui annonce un autre évangile soit anathème. Que nous, qu'un ange annonce autre chose que ce que Jésus a déclaré, qu'il soit anathème, qu'il soit maudit. Fait qu'il n'y a pas un autre évangile. Il n'y a pas un autre Jésus. Il n'y a pas une autre façon de faire les choses. Il n'y a qu'une seule façon. Je bâtirai mon Église. Et les portes du séjour des morts ne prévaudront point contre elles. Par chance qu'à côté de David, il y avait des hommes fidèles, des Abishai, des personnes qui ont dit, gars, il était là pour agir. Moïse a eu Aaron et Hur autour de lui lorsqu'il était fatigué, tout ça. Et dans nos vies, c'est la même chose. On a besoin du corps de Christ. La maturité, c'est une preuve. La fidélité, c'est une preuve, une marque de maturité. Alléluia. Je t'écris ces choses avec l'espérance d'aller bientôt vers toi, mais afin que tu saches, si je tarde, comment il faut se conduire dans la maison de Dieu. Oh! Afin que tu saches, si je tarde, comment il faut se conduire dans la maison de Dieu, qui est l'Église du Dieu vivant, la colonne et l'appui de la vérité. Et ce que tu as entendu dans moi, en présence de beaucoup de témoins, confie-le à des hommes fidèles, qui soient capables de l'enseigner aussi à d'autres. Des hommes fidèles, des personnes fidèles, qui marchent fidèlement, qui agissent fidèlement, qui ne viennent pas de nouvelles révélations, de nouvelles façons, qui ne contredisent pas la parole de Dieu, mais qui agissent fidèlement selon la parole de Dieu. Parce que beaucoup proclament leur bonté, mais quelqu'un de fidèle, qui va le trouver? Et la fidélité abat les géants de la confusion. Quand l'ennemi vient pour arriver avec une nouvelle façon, non! Je me tiens à l'Évangile de Christ. Je me tiens à la parole de Dieu. Je me tiens à ce que Dieu m'a révélé. Je sais ce qui est vrai. Je sais ce qui est bon. Alléluia! Retenez ce qui est bon. Retenez ce qui vient du Seigneur. Retenez la parole de Dieu. Alléluia! C'est ce qu'il dit en hébreu. Il dit, retenez fermement l'espérance que vous avez. Alléluia! Jésus nous a ouvert le chemin par son sang. Une porte, un chemin nous est ouvert. Il dit, marchez-y, marchez-y. Marchez dans ce que Dieu vous a donné. Alléluia. Je termine avec une histoire. que j'ai entendu une illustration de mon neveu. Il m'a conté ça il n'y a pas longtemps. Il dit, c'était plusieurs hommes qui transportaient des croix. Ils se promenaient avec leurs croix sur l'épaule et tout ça. Puis, il y a un homme comme ça, puis après un certain temps qui marchait avec la croix, a trouvé que c'était lourd un peu. Fait qu'il a pris une scie, puis a coupé une partie de la croix. Puis là, il a continué à marcher tout ça avec sa croix. Ah, oh, c'est plus léger. C'est bon. Mais un petit peu plus loin, il est encore fatigué. Puis là, puis il coupe une autre partie de la croix. Ah, ça va mieux. Et là, il continue à marcher. Tout ça, mais après un certain temps, encore une fois, il est fatigué. On va couper une autre partie. Puis à un moment donné, il est rendu avec une petite croix. Ah, pas long. Ah, ça va bien, c'est léger. Ah, je peux m'en aller avec ça. Sauf qu'il arrive sur le bord d'un ravin. Puis l'autre bord, c'est le ciel, c'est la félicité, c'est la gloire de Dieu, c'est le port qui est atteint. Sauf qu'il y a un ravin entre les deux. Puis la distance entre les deux pour traverser le ravin, c'est la grandeur de la croix. Toutes les autres jettent leur croix, puis ils pullent sur la croix, puis ils traversent l'autre côté. Mais lui, il y a un problème, parce que sa croix est trop petite. Il ne peut pas traverser. Il y avait une raison pourquoi sa croix était comme ça. Voyez-vous, enfant de Dieu, lorsqu'on commence à retrancher des choses que Dieu a dit, parce qu'on se sent fatigué, là, eh bien, c'est pas profitable au bout de la ligne. Parce que Dieu nous a donné tout ce qu'il faut, qui contribue à la vie et à la piété. Il nous a fortifié dans le Seigneur. Il nous donne de pouvoir aller et marcher en son nom, selon les principes que lui a établis. Et c'est pas à nous à les couper. C'est pas à nous à réduire la croix. C'est pas à nous à arriver avec un autre évangile, un autre Jésus, un autre esprit. Ce que Dieu a établi, c'est pour notre bien. Et au bout de la ligne, on va voir la différence. Comme Dieu a dit, un jour, tu vas voir la différence entre celui qui sert Dieu et celui qui ne le sert pas. Celui qui agit fidèlement et celui qui n'agit pas selon la justice de Dieu. Hébreux 10, « Ainsi donc, frères, puisque nous avons au moyen du sang de Jésus une libre entrée dans le sanctuaire, par la route nouvelle et vivante qu'il a inaugurée pour nous au travers du voile, c'est-à-dire de sa chair, et puisque nous avons un souverain sacrificateur établi dans la maison de Dieu. » Êtes-vous d'accord avec ça? Que nous avons au moyen du sang une libre entrée dans le sanctuaire, qu'il a inauguré une route pour nous, et que nous sommes rendus des sacrificateurs pour Dieu, et que Jésus intercède pour nous. Qu'est-ce qu'il dit après ça? Approchons-nous donc avec un cœur sincère dans la plénitude de la foi, les cœurs purifiés d'une mauvaise conscience et le corps lavé d'une eau pure. Retenons fermement la profession de notre espérance, car celui qui a fait la promesse est fidèle. Veillons les uns sur les autres pour nous exciter à la charité et aux bonnes œuvres. N'abandonnons pas notre assemblée comme c'est la coutume de quelques-uns, mais exhortons-nous réciproquement, et cela d'autant plus que vous voyez s'approcher le jour. Ne coupe pas la croix. La route est ouverte. La croix nous ouvre le chemin. Il nous ouvre le chemin à quoi? À s'approcher de Dieu pour être fortifié. Il nous ouvre le chemin à quoi? À retenir fermement ce qu'on a reçu en Jésus. Il nous ouvre la route à quoi? À veiller les uns sur les autres pour nous exciter à l'amour et aux bonnes œuvres. Il nous ouvre la route à quoi? À ne pas abandonner notre assemblée. Mais à s'exhorter, s'encourager jusqu'au jour du retour du Seigneur. Alléluia! Oh, les nouvelles manières de faire ne sont pas de Dieu. Parce que la manière, Dieu nous l'a donnée à travers sa croix. Amen! Alléluia! Paul a dit, je n'ai pas d'autre pensée que la croix de Christ. Pour qui le monde est mort pour moi et comme je le suis pour le monde. Que fait la croix de Christ dans nos vies? Le monde est mort pour moi comme je suis mort pour le monde. Le monde est mort pour moi comme je suis mort pour le monde. Je n'ai pas d'autre chose à savoir que la croix de Christ, parce que je suis ressuscité avec Christ. Et si je vis, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Je puis tout pour celui qui me fortifie. Alléluia! Des fondements qui sont inébranlables, que peu importe qui vient, peu importe si un ange, peu importe qui peut vous dire ces choses, c'est les fondements de la vie chrétienne. Amen! Alléluia. Je termine. Ça arrive. On l'a vu, le deuxième démon, le deuxième géant. On l'a vu. Osée, oh, la fidélité. Osée 2:22, je serai ton fiancé par la fidélité. Je serai ton fiancé par la fidélité et tu reconnaîtras l'Éternel. Du reste, ce qu'on demande des dispensateurs, c'est que chacun soit trouvé fidèle. Fidèle. Et pourquoi qu'on vient à la croix de Christ? Pour être fidèle. Pour laisser Jésus par sa croix. C'est ça la simplicité de Christ. Je viens à la croix de Christ pour qu'il me donne la force d'être fidèle. Pour qu'il pardonne mes péchés. Il purifie mon cœur. Il me donne du discernement. Il me donne de son esprit pour aller de l'avant. C'est ça la grâce de Dieu. Fidèle. Ce que Dieu demande, c'est qu'on soit trouvé fidèle. Parce que Dieu est fidèle. Alléluia. Amen. On ferme nos yeux. Si vous êtes